OK, on va commencer notre 33e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Ce matin, on commence vraiment la série sur la grâce, donc le calvinisme. Qu'est-ce que c'est? Parce que la grâce et le calvinisme, c'est la même chose. Alors, on va commencer vraiment une série de sermons sur la grâce souveraine de Dieu, appelée parfois les doctrines de la grâce ou les 5 points du calvinisme. Historiquement, ces doctrines ont toujours été le centre de controverses et ça continue de nos jours également. Alors, la question à se poser, le calvinisme, est-ce biblique? Nous affirmons avec grande assurance que le calvinisme est biblique. Nous le démontrerons au cours des prochaines leçons. Nous savons aussi que cette compréhension théologique de la Bible est cependant mal connue et souvent présentée de façon malhonnête et caricaturale. Il fut un temps où la plupart des grandes dénominations chrétiennes avaient adopté ces enseignements, comme par exemple les anglicans, les presbytériens, les baptistes et d'autres. Le système calviniste connaît de nos jours un regain de popularité dans les milieux chrétiens évangéliques. Alors notre série d'enseignements examinera le calvinisme sous beaucoup d'angles. Voici un tableau des principaux. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, c'était une série qui avait déjà été donnée, avec toute une série de titres à la page 2. Alors, les différents angles d'étude du calvinisme, on va le regarder dans cet ordre-là. Donc, il devrait y avoir autour de 20, 23 ou 24 ou 25 leçons, parce que peut-être certaines leçons seront divisées en deux. Donc, celle d'aujourd'hui, le numéro 1, on regarde le calvinisme, qu'est-ce que c'est? La deuxième sermon, on va regarder le calvinisme, est-ce nouveau? Le troisième, le calvinisme, est-ce biblique? Le quatrième sera le calvinisme, pourquoi 5 points? Numéro 5 sera le calvinisme et la conception de Dieu. 6, 7, 8 seront 3 leçons qui seront le calvinisme et la souveraineté de Dieu. Première partie, deuxième partie, troisième partie, parce que c'est très relié avec la doctrine de la souveraineté de Dieu. Le sermon numéro 9 sera le calvinisme et l'œuvre de Christ. Et ensuite, les points numéro 10, 11, 12, 13 et 14 seront l'étude des points, des 5 points un par un. Alors, le premier point, la corruption de l'homme. Le deuxième, l'élection inconditionnelle. La troisième, la rédemption particulière. Le quatrième, la grâce irrésistible. Et le cinquième, la persévérance des saints. Ensuite, dans le sermon numéro 15, on va regarder les objections au calvinisme. Alors, il y a des arguments qui sont de nature humaine. On va les examiner et les réfuter. Il y a aussi des objections au calvinisme qui sont des arguments bibliques. Donc, les gens vont plus utiliser des versets de la Bible. On va regarder ça aussi et réfuter les versets qui sont mal utilisés hors contexte. Dans le 17e sermon, on va regarder le calvinisme et ses variantes. Alors, on va voir qu'au cours de l'histoire, ça n'a pas toujours été compris de façon parfaitement pareille. Il y a des petites variantes. On va regarder les différentes variantes. Et après ça, et à partir du sermon 18, c'est plus situer le calvinisme par rapport à l'ensemble des grands mouvements théologiques du monde. Alors, on situe. Commençons le défini, après ça on se situe par rapport aux grands mouvements. Alors les mouvements, on va regarder le calvinisme et le fondamentalisme. Dans le sermon 19, on va regarder le calvinisme et le néo-évangélisme. Dans le 20, on va regarder le calvinisme et le pentecôtisme charismatique. Et le 21, on va regarder le calvinisme et l'écuménisme. Et dans le 22, on va regarder le calvinisme et le nouvel âge. Et dans le 23, le calvinisme et la séparation. Alors, on en a au moins pour 23 leçons, peut-être 24, parce que la première fois que je les avais préparés, il y avait certains qui étaient très longs, qui avaient duré plus que normalement, si on durait 1 heure et quart, ben, il faut le couper en 2. Alors, ça se peut que ça soit plus que 23, là, mais ça va être minimum 23. Alors, la première question qu'on s'était dit qu'on voulait se poser, c'était: le calvinisme, ce que ça n'est, si on veut savoir qu'est-ce que c'est, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est pas. Alors, la première chose qu'on se doit de savoir sur le calvinisme, c'est que ce n'est pas tout ce que Jean Calvin a enseigné. Parce qu'il y en a qui peuvent déduire, à cause du nom calvinisme, que c'est tout l'enseignement de Calvin qu'on a adopté, alors que ce n'est pas ça du tout. Alors, le système théologique appelé par le vocable calvinisme, ce n'est pas toutes les doctrines sur lesquelles Calvin a écrit ou enseigné. C'est surtout ce qu'il a enseigné sur la doctrine du salut et la doctrine de la grâce. Alors, c'est vraiment... lui avait vraiment systématisé l'étude du calvinisme, c'est-à-dire des doctrines de la grâce. Et à quelque part, ça va être surtout l'enseignement de Calvin sur ça qu'on pourrait dire qui fait partie de l'enseignement du calvinisme. Alors, le calvinisme n'est pas non plus limité aux traditionnels cinq points. Alors, on est porté des fois à penser, bon, si quelqu'un est calviniste, il faut qu'il ait les cinq points, c'est vrai, mais le système calviniste comme tel est beaucoup plus large que juste les cinq points. Alors, c'est ce qu'on va regarder un petit peu. Alors, l'acronyme TULIP est souvent utilisé comme un aide mémotechnique pour se rappeler les cinq principales facettes de la grâce. Alors, on a le T. Alors, le TULIP, ça vient d'un acronyme anglophone. Donc, le T, c'est pour Total Depravity. En français, on pourrait dire la corruption totale de l'homme. Le U, c'est pour Unconditional Election. Donc, en français, ce serait l'élection inconditionnelle. Le L, pour Limited Atonement. En français, rédemption particulière. Le I, pour Irresistible Grace. Donc, en français, grâce irrésistible. Et le P, pour Perseverance of the Saints, en français, persévérance des saints. Pour qu'une église soit réformée baptiste, il faut qu'elle rencontre d'autres critères. Il faut, par exemple, qu'elle soit confessionnelle. Donc, nous, ici, on est réformés baptistes, mais confessionnelle, ça veut dire qu'on fonctionne en adhérant à une confession de foi historique qui est bien précise, celle de la confession de foi réformée baptiste de Londres de 1689. Alliantielle, c'est qu'il peut y avoir des calvinistes qui ne sont pas alliantiels, qui n'ont pas une structure alliantielle. Il y a des calvinistes qui sont dispensationalistes, par exemple. Alors, pour qu'une église soit réformée baptiste, il faut qu'elle soit confessionnelle, alliantielle, cessationniste. Alors, cessationniste, ça veut dire qu'au point de vue des dons spirituels, elle reconnaît que les dons spirituels sont terminés. La pérennité de la loi morale, ça veut dire, et du sabbat chrétien, ça veut dire que pour le réformé baptiste, la loi, le décalogue, la loi morale et le sabbat chrétien, pérennité, ça veut dire qu'ils continuent dans le temps. Alors, tandis qu'il y en a beaucoup qui peuvent être calvinistes, mais qui ne croient pas à la pérennité de la loi morale et du sabbat chrétien. Et aussi, ça comprend, il faut qu'elle ait une vision englobante de la réalité. Donc, c'est une foi qui implique absolument tous les domaines de la vie. Et c'est aussi, il faut qu'elle ait aussi une compréhension particulière de l'évangélisation. Donc, l'évangélisation, non pas comme une acceptation, une décision de l'homme, mais plutôt la conversion comme œuvre du Saint-Esprit. Autre chose qui normalement est défendue par les églises réformées baptistes, une apologétique présuppositionnaliste et biblique. Donc, apologétique, ça veut dire défense de la foi. Alors, quand on défend la foi, on la défend à partir de présuppositions. La présupposition, on croit que Dieu existe, on croit que la Bible dit la vérité. Et ça, c'est des choses qui sont, comment on pourrait bien dire ça, qui sont indiscutables. On part avec... De toute façon, c'est impossible aujourd'hui que quelqu'un puisse défendre un système sans qu'il parte avec des présuppositions. Pour l'athée, dans sa présupposition, c'est Dieu n'existe pas. Mm. Nous, on est apologétique, présuppositionnaliste, parce qu'on croit que Dieu existe, on croit que la Bible dit la vérité, etc. Alors, c'est important. L'adoption aussi du principe régulateur dans le culte et le service. Alors, le principe régulateur, quand on regarde, c'est vrai qu'on voit que c'est beaucoup plus large qu'uniquement les cinq points. Principe régulateur, ça veut dire qu'une église réformée baptiste va modeler son culte et son service en trouvant dans les Écritures des justifications que c'est dans le Nouveau Testament et, ou dans l'Ancien. Mais tandis qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a toutes sortes de choses qui sont intégrées dans le culte, mais qui ne trouvent pas de justification dans les Écritures. C'est très dangereux quand tu te mets à déraper avec ça, tu peux aller très loin. Alors, ça, c'est une autre chose. Et un autre point pour qu'une église soit réformée baptiste, la discipline ecclésiastique. Donc, la discipline ecclésiastique, on croit qu'une église ne peut pas fonctionner sans que elle fasse la discipline à ses membres lorsqu'il y a des manquements graves et qu'ils soient exclus, excommuniés, on pourrait dire. Alors, à quelque part, si une église ne fait pas ça, c'est sûr que tôt ou tard, il va y avoir toutes sortes de désordres qui vont s'installer dans l'église. Et aussi, la prédication expositoire dans son intégralité, ça veut dire que normalement, les églises réformées baptistes vont prendre les livres et vont les étudier d'un bout à l'autre. Alors, c'est ce qu'on appelle la prédication expositoire dans son intégralité. Donc, le mot utilisé en latin, c'est « tota scriptura », un peu comme Paul dit « je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu ». Alors, normalement, on fait une étude systématique des différents livres, des différents livres des Écritures. Alors, quand on regarde, normalement, quand on demande à quelqu'un « c'est quoi être calviniste », il va arriver avec « tulip ». Mais si on regarde le système calviniste selon la compréhension réformée baptiste, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, ce n'est pas ce que... Le calvinisme n'est pas limité au traditionnel 5 points, c'est ce qu'on vient de regarder. Et ce n'est pas né avec la réforme. Aussi, les gens peuvent dire, « Ah, vous défendez le calvinisme, mais si ça serait biblique, ça aurait commencé avant Calvin. » Parce qu'il associe le mot calvin en voulant dire, ça a commencé avec la réforme. Alors, la doctrine de la grâce comme telle avait été adoptée par beaucoup de monde avant Calvin. Alors, Calvin, il l'a un petit peu systématisé, mais ce n'est pas son invention, là. Alors, il faut bien comprendre ça, parce que si quelqu'un ne comprend pas ça, il s'imagine qu'on a adopté des affaires d'hommes. Alors, le calvinisme, ce n'est pas nouveau. Il s'est exprimé au cours de tous les âges de l'Église. La réforme a cependant contribué à éclaircir son expression. Alors, on vient de regarder ce que c'est pas. On va regarder maintenant qu'est-ce que c'est. Alors, c'est essentiellement trois choses. Donc, un système de théologie biblique. Tous les croyants dont la foi est basée sur la Sainte Bible ont adopté, qu'ils en soient conscients ou non, que leur système soit écrit ou non, un système théologique. Alors, souvent, les gens vont dire, « Ah, vous avez accepté des affaires en dehors de la Bible. » Mais il n'y a pas une église, il n'y a pas un groupe de croyants qui, à quelque part, ils n'ont un système de théologie, mais souvent, il n'est pas écrit. Ou souvent, comme on dit, ils n'en sont pas conscients. Les gens disent toutes sortes de choses pour nous dire qu'on n'est pas correct en voulant dire d'adopter une confession de foi. Mais tout groupe de croyants ont à quelque part, un système de théologie parce qu'ils ont des positions sur différentes choses. Alors, dès que tu prends une position sur une interprétation, tu as un système de théologie. Alors, ce système de théologie biblique exprime tout simplement ce qu'il croit que la Bible dit sur différents sujets et comment les interpréter et les appliquer dans leur vie d'église, dans leur vie de famille et dans leur vie d'individu. Alors, on a dans Actes 20, les versets 26 et 27, Paul qui dit « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Alors, c'est vraiment le principe qu'on a dit tantôt, « Tota scriptura ». Alors, Paul n'avait pas ses petites doctrines préférées, puis le reste, il oubliait. Il dit qu'il enseignait tout le conseil de Dieu. Alors ici, l'apôtre Paul affirme qu'il a enseigné de façon systématique sur tout le contenu de la Bible. Alors, un système de théologie biblique, c'est l'ensemble des positions que prend un groupe de chrétiens sur ce que la Bible enseigne. La théologie systématique a traditionnellement organisé les principaux enseignements de la Bible autour de 10 grandes divisions. Alors, on va automatiquement, quand on étudie le calvinisme, automatiquement, on vient toucher tous ces grands points-là. Parce qu'on ne peut pas faire le calvinisme sans parler de Dieu, qui est la théologie, donc c'est la première division. La deuxième division, on ne peut pas parler non plus du calvinisme sans parler de Christ, donc Jésus-Christ ou la christologie. On ne peut pas non plus parler du calvinisme sans parler du Saint-Esprit, qui est ce qu'on appelle la pneumatologie. Et on ne peut pas non plus parler du calvinisme sans aborder les Saintes Écritures et nos positions face aux Saintes Écritures, donc la bibliologie. Et bien entendu, si on veut parler du calvinisme, il faut parler de l'homme, donc l'anthropologie biblique. Il faut parler aussi du péché, sixième division, ce qu'on appelle souvent en théologie l'amartiologie. Amartiologie, ça veut dire c'est des mots grecs utilisés pour parler que, autrement dit, c'est la science de l'étude du péché comme tel. Ensuite, on ne peut pas, bien entendu, parler du calvinisme sans parler du salut, donc la sotériologie. On ne peut pas non plus parler du calvinisme sans parler de l'ecclésiologie, de l'Église, et des anges, l'angélologie, et, bien entendu, les choses de la fin, l'eschatologie. Alors, il y a certains points dans le calvinisme qu'on va étudier plus que d'autres. Les deux derniers, les anges et l'eschatologie, ça ne fait pas partie, qu'on pourrait dire, nécessairement du système calviniste comme tel. Alors, cependant, la Bible a beaucoup à dire sur bien d'autres sujets. Par exemple, les langues, les dons spirituels, les guérisons, les miracles, le chassage de démons, les manifestations du Saint-Esprit, les nouvelles révélations, la séparation du monde et la séparation ecclésiastique, l'écuménisme, la psychologie, les femmes dans le ministère, l'avortement, l'homosexualité, la musique, la forme de culte, etc. Autrement dit, si on prend chacun des points qu'on vient de nommer là, c'est sûr qu'on peut les mettre en dessous d'un des 10 grandes divisions. Mais ordinairement, c'est pas toujours clair où on les met. Alors, c'est juste pour dire que quand on est calviniste, le système étant plus large que juste les 5 points, à quelque part, on vient toucher à des points qui ont été mentionnés. Donc, on a dit que c'était d'abord un système de théologie biblique. Donc, on va regarder qu'est-ce que Dieu dit, quelle part Dieu le Père aura dans le salut, quelle part Dieu le Fils, quelle part Dieu le Saint-Esprit, c'est quoi notre position par rapport à la Bible, etc. Alors, c'est ça qui est un système théologique. Donc, le calvinisme, c'est d'abord un système de théologie biblique, mais c'est aussi une vision du monde. Alors, Henri Lusher, dans un article publié dans la revue Promesse et intitulé « Vision chrétienne du monde », dit « Ce qui se joue aujourd'hui dans le monde, c'est la grande bataille pour les cœurs et les pensées. En quelques années, notre société a changé et les structures du monde occidental s'effondrent pour faire place à une structure globale avec pour objectif l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Cependant, notre mission de chrétien demeure évangéliser, ce qui implique que nous devons comprendre le temps que nous vivons afin de nous forger une approche qui tienne compte d'une vision chrétienne du monde, c'est-à-dire d'une vision du monde conforme à la parole de Dieu. » Alors, quand on dit que c'est un système théologique, oui, mais il faut comprendre que c'est aussi une vision du monde. Alors, qu'est-ce qu'une vision du monde? Une vision du monde est un modèle opératoire du monde, c'est-à-dire une idée que l'on se fait du monde. Idée basée sur ce qu'est la vie et idée qui commande le choix de valeur. On se forge un modèle du monde et on agit selon ce modèle. On a eu à regarder comment les gens vivent. Ta vision du monde va influencer ta manière d'agir. Alors, c'est ce qu'on dit, Le calvinisme est aussi une vision du monde, mais qui est basée sur les Saintes Écritures et qui va venir, ou qui devrait du moins, influencer grandement ta marche dans le monde, ta façon d'agir. Alors, en général, notre vision du monde vient du mode de vie commun adopté par la société dans laquelle nous vivons. Elle nous inspire et influence notre façon de vivre en famille, notre façon d'élever des enfants, notre façon d'opérer des échanges économiques, etc. Quand il y a simultanément plusieurs visions du monde dans une société, il en résulte une désorientation. Les différents domaines sont cloisonnés, chacun risquant d'être dominé par une optique qui lui est propre. Il se produit ainsi des clivages dans la culture au détriment d'une vision harmonieuse. Notre façon de vivre est toujours gouvernée par notre vision du monde, qui influence et inspire tout ce qui gravite autour. L'éducation, la santé publique, le système juridique, la protection de l'environnement, les arts, la famille, la politique et les institutions religieuses. David A. Noble, président depuis plus de 30 ans de Summit Ministries et auteur du livre important « Understanding the Times », autrement dit comprendre notre époque, définit une vision du monde comme suit. Le terme « vision du monde » se réfère à toute idéologie, philosophie, théologie, mouvement ou religion qui fournit une approche globale pour comprendre Dieu, le monde, les relations de l'homme avec Dieu et le monde. Spécifiquement, une vision du monde devrait contenir une perspective particulière en relation avec chacun des 10 disciplines suivantes. La théologie, la philosophie, l'éthique, la biologie, la psychologie, la sociologie, la loi, la politique, l'économie et l'histoire. Autrement dit, une vision du monde, ça comprend une certaine compréhension et une certaine pratique en rapport avec chacun de ces points-là. Toute vision du monde est basée sur les réponses que chaque homme apporte à 4 questions fondamentales. Il répond ces questions selon sa croyance, sa foi, sans nécessairement les avoir formulées ni même en être conscient. Sa culture l'a façonné, son raisonnement. Ces questions, on parlait 4 questions, sont les suivantes. Où suis-je? Quelle est la nature de l'univers dans lequel je vis? Qui suis-je? Deuxième. Quelle est la nature de l'homme? Quel est son rôle? Quel est le sens de la vie? Troisième question. Où est le problème? Quel est l'obstacle à mon plein épanouissement? Quelle est la nature du mal et la compréhension que j'en ai? Quatrième. Quel est le remède? Comment vaincre l'obstacle qui m'empêche d'y arriver? Comment être sauvé, délivré? Alors, on le sait, le calvinisme est une vision du monde basée sur la Sainte Bible. Aucun domaine de la vie n'est exclu. Science, politique, économie, art, sexualité, etc. Le grand théologien néerlandais ou hollandais, Abraham Kuyper, a expliqué ce qu'est la vision réformée calvinisme dans son ouvrage intitulé « Lectures on Calvinism » ou « Lectures sur le calvinisme ». Il s'agit là d'une série de conférences que Kuyper a donné en 1898 à l'Université de Princeton aux États-Unis, où il expose de façon magistrale les implications de la foi réformée calviniste dans tous les domaines de la vie. Alors, c'est sûrement un livre que je vais me procurer un jour, parce que, autrement dit, il est en train de développer comment notre foi réformée baptiste ou réformée calviniste devrait influencer notre vision d'à peu près tous les domaines de la société, la science, les arts, etc. Et ça doit être très intéressant parce que Kuyper était reconnu, il était même, je pense, si je ne me trompe pas, il était président de la Hollande, un homme très capable. Alors, ça doit être sûrement une œuvre intéressante à étudier, à lire. Donc, c'est aussi une vision du monde. Donc, c'est un système de théologie, c'est une vision du monde. Et, troisièmement, c'est aussi un mode de vie théocentrique. Un mode de vie théocentrique, c'est un mode de vie centré sur Dieu et sur les Saintes Écritures. La confession de foi adoptée, défendue et pratiquée par une église locale ou un groupe d'églises locales va grandement déterminer la vie pratique et quotidienne des croyants. Alors, j'ai fait une recherche, un petit peu pour trouver des informations sur un mode de vie théocentrique, et j'ai trouvé le document de Pascal Deneau. Alors, le pasteur Pascal Deneau, dans son document de 80 pages intitulé un plaidoyer pour le confessionnalisme et une introduction historique et théologique à la 1689. Alors, j'ai mis le lien Internet où il est possible de télécharger son document. Alors, il fait clairement dans son document, aux pages 32-33, un lien très clair entre ce qu'on appelle l'orthodoxie, donc autrement dit, ce que l'on croit va influencer grandement ce que l'on fait. Alors, l'orthodoxie, l'orthopraxie vont ensemble. Si ton orthodoxie est fausse, ton orthopraxie va être fausse aussi. Alors, c'est très important de faire le lien entre les deux. Alors, aux pages 32-33, voici ce qu'il dit, on va le citer. Il dit « La dernière utilité que nous relèverons d'une confession de foi est le fait qu'elle détermine l'orthopraxie. Nous pouvons dire de façon axiomatique que tout ce que l'on fait est déterminé par ce que l'on croit. » Axiome, ça veut dire une vérité qu'on ne peut pas mettre en doute. Donc l'axiome, autrement dit, c'est sûr que tout ce que tu penses, ta manière de penser va influencer ta manière d'agir. Alors ça, c'est facile à... S'il en est ainsi, combien est-il important de s'assurer que ce que l'on croit est juste? Ainsi, l'orthodoxie détermine l'orthopraxie. Donc, le credanda détermine l'agenda. La foi détermine la pratique. Malheureusement, plusieurs ne maintiennent pas les choses dans cet ordre parce qu'ils ne réalisent pas l'importance de ce principe. Robert Lentz a écrit « La théorie et la pratique ont été divorcées et les évangéliques, avec la société en général, ont choisi de se tenir du côté pratique de l'abîme. Aujourd'hui, avec la quête du succès, on regarde prioritairement aux résultats en appliquant avec désinvolture le principe selon lequel la fin justifie les moyens. » La méthode a peu d'importance pourvu que nous rejoignions nos contemporains, disent-ils. Cette philosophie, largement répandue parmi les évangéliques, déplaît à Dieu. Elle mène à l'apostasie, car elle a l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Richard Müller écrit, « La théorie précède une pratique cohérente et la connaissance biblique, historique et la théologie systématique précèdent un ministère cohérent à l'intérieur de et en faveur de l'Église. Lorsqu'une confession de foi orthodoxe est nettement établie dans une Église et qu'elle est suivie, il y a peu de chances que les méthodes d'évangélisation, le culte et les ministères soient anti-bibliques. Une bonne doctrine mènera à une bonne pratique. Notre doctrine est-elle bonne? Notre pratique risque de l'être aussi. Notre doctrine est-elle erronée? Notre pratique n'a rien de biblique non plus. Une bonne conduite passe par l'enseignement. » Alors, on peut voir dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 1 et 2. Alors, c'est de vraiment nous faire comprendre que c'est ces trois choses-là en même temps. Un système de théologie, une vision du monde et aussi... Et aussi un mode de vie théocentrique. Donc, quand on comprend que c'est tout cela, là, quelque part, on est pas mal plus proche de la vérité que de juste croire que c'est les cinq points. Alors, bien entendu, tout cela, ça va amener des devoirs. On a des devoirs envers le calvinisme. Quels sont-ils, selon les Écritures? Jude, versets 3 et 4. « Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ça nous dit dans le verset 3 qu'il faut combattre. Alors, quelque part, il y a un combat. On ne peut pas penser qu'on va tout adopter un système de théologie et que ça ne nous amènera pas des combats, premièrement avec nous-mêmes, bien souvent, mais aussi avec d'autres qui vont chercher à introduire des erreurs. Alors, pour la défendre, c'est sûr que ça implique un combat. Alors, nos devoirs. On va commencer par le premier. Nous avons le devoir de l'enseigner. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, verset 15 et verset 24 à 26. Dans le verset 2, ça dit « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, on a le devoir de transmettre à d'autres personnes qui sont capables d'enseigner pour que, si nous on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a qui ont transmis la chaîne depuis de bien longtemps. Alors, on pourrait tous mentionner quelle est la plus grande influence dans nos vies, de qui Dieu s'est servi pour nous amener au calvinisme. Donc, le devoir d'enseigner. Dans le verset 15, ça dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et le verset 24 à 26, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Alors, on voit que l'enseignement implique un combat, et un combat avec le malin lui-même, parce qu'il dit que le malin cherche à ramener les gens dans l'erreur. On a aussi d'autres passages dans 2 Timothée, dans le chapitre 3, les versets 1 à 5 et le verset 12 à 14. Alors, 1 à 5, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors, est-ce que ces versets-là ne décrivent pas bien la société moderne? Versets 12 à 14. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Donc, on a le devoir de l'enseigner. Un deuxième devoir, on a le devoir de le prêcher. Alors, 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 4. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Alors qu'on parlait tout à l'heure du combat, ça nous dit c'est que oui, les hommes vont devenir de plus en plus. Ils vont venir un temps, ils ne voudront même plus l'entendre. Troisième devoir qu'on a face au calvinisme, le devoir de le pratiquer. Alors c'est beau de comprendre intellectuellement les choses, mais il faut que toutes ces choses-là trouvent une place dans notre vie quotidienne de tous les jours. Alors on a Matthieu 7, 21 à 29. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors, le devoir de la pratiquer, on vient de le voir, le Seigneur fait une différence, même ceux qui, il y en a qui vont se prétendre croyants, mais la façon de distinguer les vrais croyants des pas vrais, c'est tout simplement la manière dont ils vont avoir mis en pratique ou obéi à ce que Dieu dit. Alors, comprendre avec la tête, c'est une affaire, mais s'il n'y a pas d'obéissance, tu peux être orthodoxe, il faut que tu aies l'orthodoxie, mais il faut que l'orthopraxie suive. Alors, Hébreux, chapitre 12, verset 14, alors les Écritures nous disent « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et dans Jacques 1, verset 22 à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et on a aussi l'avertissement de Jacques, chapitre 2, verset 14 à 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu comprends qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors, j'ai mis une couple d'applications. La première, comme le grand et célèbre prédicateur anglais Charles Spurgeon, appréciant le calvinisme à sa juste valeur, il écrivait au sujet de ce système théologique. « Ce n'est pas une nouveauté que je prêche, pas une nouvelle doctrine. J'aime proclamer ces solides vieilles doctrines qu'on a surnommées calvinisme, mais qui sont assurément et véritablement la vérité de Dieu révélée en Jésus-Christ. » Deuxième application, rappelons-nous nos devoirs envers la vérité. D'abord, la connaître. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, dans la version Darby, « Pour cette même raison, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. » La connaître, ensuite la défendre. On l'a vu tout à l'heure dans Jude, que c'est Dieu qui nous demande qu'on va avoir à se battre pour conserver notre foi. Ensuite, la proclamer, l'enseigner aux enfants de Dieu et la prêcher aux inconvertis. Enfin, la vivre, que notre grand et souverain Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement.